M.
L'émission.
L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. En direct de Renard-Pince à Châtelain, c'est une run session comme ce sera le cas cette saison, un vendredi par mois. Et là donc on continue en mode émission au coin du feu, près d'une très belle cheminée sculptée dans le bâtiment du hameau qui fait office de bar et de salle de concert. Mais vous le savez, Renard-Pince c'est une ancienne ferme et ce sont donc plusieurs bâtiments en cours de rénovation, transformation. La rénovation d'une maison en particulier, les mains dans la chaux et le chanvre, dans les pierres, dans d'autres éléments de construction, d'éco-construction même, c'est le sujet de cette première partie d'émission avec Annaïk Tréguer qui est coordinatrice du projet de rénovation du hameau, mais aussi Jean-François Boussard, artisan maçon à Telgruc-sur-Mer et sur le chantier de Rennes, et Simon Pétillon qui participe au chantier qui nous expliquera comment et pourquoi. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être là. On va commencer avec vous, Annaïk. Est-ce que vous pouvez nous faire un topo sur tout ce vaste projet de rénovation du hameau ?
Oui, donc à Renard-Pince, effectivement, il y a les activités historiques de Renard-Pince, enfin historiques depuis les années 70, qui sont la salle de concert, le café. Et en 2017, il y a une partie des bâtiments de la ferme qui ont été mis en vente. Et du coup, les bénévoles, les gens qui sont dans l'association de Renard-Pince se sont posé la question en se disant si des voisins arrivent sur le hameau, comment est-ce que les différentes activités vont pouvoir cohabiter ? Et puis, il y avait des besoins aussi pour héberger des artistes, des envies très fortes de la part du conseil d'administration, des bénévoles, des amoureux du lieu de Renard-Pince, de pouvoir développer d'autres activités sur le hameau. Et du coup, en quelques mois, il y a eu un tour de force qui a été réussi, c'est de créer un financement participatif et de faire en sorte de racheter ces bâtiments qui étaient mis en vente. Donc ces bâtiments, c'était une grande maison. Une maison d'habitation, une grande longère également, et puis dans le lot de cette vente, il y avait des terres agricoles. Donc on va en parler, ça va faire partie des projets du hameau de Renard-Pince.
Il y a des hangars, aussi, non, enfin au moins un hangar si ce n'est plus d'ailleurs.
Oui, il y a également un grand hangar, il y a eu des concerts cet été sous le hangar, ouais.
Pratique. Et il y a combien de surface potentiellement habitable en gros, c'est quoi
Alors,
si vous avez calculé.
Alors, il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Effectivement, ça fait beaucoup de mètres carrés, beaucoup de mètres carrés à rénover. Là, la grande maison, elle fait en surface habitable, elle fait un peu moins de 300 mètres carrés. Mais c'est une grande bâtisse. Ouais.
Au sol ?
Au sol.
Ah ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Parce qu'il y a des étages.
Oui. Non. L'ensemble, bien sûr. Okay. Ouais, l'ensemble.
Et il y aura d'autres. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on rénove ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ?
Alors, il y a effectivement plein de chantiers en cours à Renard-Pince. Et là, le chantier qui est le plus avancé, c'est celui de ce qu'on appelle la maison. La maison, l'idée, c'est d'avoir une maison sur place, au sein du hameau, dans laquelle en fait les artistes qui viennent en concert, donc qui sont en tournée ou qui viennent juste pour une date à Renard-Pince, ou bien les artistes qui viennent en résidence, parce qu'il y a beaucoup de résidences au cours de l'année, donc des artistes qui passent une semaine à travailler en fait à travailler chez nous, et l'idée c'est de pouvoir les loger sur place, hein, de les loger sur le hameau, parce que sinon on les héberge dans une maison qu'on loue à Saint-Ségal, mais évidemment il y a les déplacements, c'est moins convivial que d'être vraiment immergé aussi, notamment pour les temps de création à Renard-Pince.
Et alors en quoi consiste la rénovation du bâtiment là ?
Alors la rénovation ça concerne tout, donc il y a quasiment tout qui a été fait, on a quand même garder la couverture, il y a la charpente qui a été renforcée, je vais passer par les différents corps de métier, la charpente a été renforcée, il y a des planchers qui ont été en partie refaits, des plafonds également pour transformer le rez-de-chaussée en aux normes en fait pour recevoir du public. Toutes les menuiseries ont été changées et là l'idée c'est de l'isoler et donc de faire du chaud chanvre pour l'isoler.
Et on va en parler. Et donc, à terme, dans ce bâtiment-là, il y aura en bas, on pourra, il y aura une partie cuisine, c'est ça, puis petit concert.
Alors, au rez-de-chaussée, il y a une salle qui va être une grande salle un peu multifonction, dans laquelle on peut accueillir des réunions, accueillir des temps de création, par exemple, pour les artistes qui ont besoin d'espace pour ça. Ça peut être une salle de séminaire qu'on pourra aussi louer, parce qu'il y a un peu de demande là-dessus. On pourra aussi accueillir, par exemple, des concerts jeunes publics, des concerts en petit format, où on a besoin d'une salle un peu plus petite. Et voilà, ça pourrait être adapté à ça, des formats acoustiques notamment.
Et aux étages, alors, les chambres, c'est ça? Ou dortoirs ou...
Voilà, aux étages, les chambres. Donc, au premier étage, ce sera trois grandes chambres, avec deux à trois places par chambre. Et au dernier étage, et ça, c'est important, on va refaire toutes les cloisons pour faire six chambres. Donc, c'est six petites chambres. C'est un peu des chambres comme des cabines de bateau. Mais l'important, en fait, c'était qu'on puisse proposer ça aux artistes qui sont, notamment ceux qui sont en tournée, d'avoir un espace un peu d'intimité et puis d'avoir de pas être dans des chambres partagées. Et du coup, on sait que c'est très apprécié et que quand on fait visiter aux artistes qui viennent là à la maison, ils disent « Ah, bah, ça va être super. »
Ils vont pouvoir se reposer vraiment, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et donc ça, c'est un bâtiment qui est en fait... Il y a une suite de bâtiments dans le prolongement de celui-là qui n'est pas encore en rénovation, mais ça sera quoi le projet à terme?
Alors, à côté, c'est encore un autre projet et un autre chantier. Il y a une grande longère qui est attenante à cette maison. Et en fait, ce qui a émergé des temps de travail, des réunions du collectif qui se réunit autour du hameau, qui s'appelle ironiquement la grosse vrillette, parce qu'il y avait de la grosse vrillette dans la maison.
C'est un insecte qui dévore le bois, je précise.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est dit, c'est que aussi à Renard Pince, les gens, ils viennent... ils viennent pour écouter de la musique, ils viennent pour la convivialité et que la nourriture et le bien manger, c'est hyper important. Et donc, ce qui a émergé de toutes ces discussions, c'est de pouvoir créer un restaurant sur le lieu.
Donc, il y aura ça, un restaurant et puis encore des concerts aussi, non? Non, quand même pas. Pas une salle de concert en plus?
Non, pas de salle de concert en plus, mais vraiment une salle de restauration. Donc là, on y travaille sur les deux aspects, sur l'aspect rénovation du bâtiment. Il y a le permis de construire qui est en cours d'instruction. C'est des phases qui sont très longues. On réfléchit aux devis, on fait les chiffrages. On cherche surtout les financements pour pouvoir faire tout ça. Parce que là, c'est aussi une grosse rénovation. Et donc, ça nécessite un budget important. Et puis, on travaille aussi sur la structure juridique. Qu'est-ce qu'on veut comme restaurant? Qu'est-ce qu'on veut comme type de restauration? Avec quel produit on a envie de travailler? On se rapproche pour ça du mouvement Slow Food. On a été épaulé.
Alliance des cuisiniers slow food qu'on reçoit une fois par mois dans l'EM, d'ailleurs, le lundi.
Voilà, on a été épaulé, nous, par Xavier Hamon pour faire émerger tout ce projet. Et puis, on travaille sur la structuration juridique, sur qui va porter ce restaurant, comment on va gérer tout ça. Donc, il y a les deux qui avancent en parallèle.
Et ça serait pour quand, à peu près, dans l'idéal? Joker.
Joker, on fait au mieux, je sais pas, ça va dépendre des financements, on espère au plus vite. Dès qu'on a les financements pour faire la charpente et cette partie charpente couverture, on espère lancer le chantier. Et moi, j'espère que pour 2024, on pourra manger ici.
On va croiser les doigts.
Ouais.
Et d'autres chantiers sur d'autres bâtiments encore à signaler pour un peu plus tard?
Oui, ça manque pas les chantiers à signaler. Le prochain chantier après la maison, ça va être en parallèle de la maison, puisque la maison, l'idée, c'est de la réceptionner là au printemps. C'est que les premiers, la salle du rez-de-chaussée, on puisse l'utiliser au printemps et qu'ensuite les premiers artistes puissent y dormir en avril. Donc là, c'est assez imminent en fait, dans quelques mois. Et à partir de février, on va lancer le chantier de la chaufferie bois. Qui a pour but en fait de chauffer tous les bâtiments du hameau. Une chaufferie à bois déchiquetée. Et pour abriter la chaufferie, il faut construire le bâtiment qui va abriter cette chaufferie.
Et alors pour l'essentiel des travaux, vous avez opté pour l'éco-construction. Pourquoi? L'éco-rénovation, pardon.
Je vais dire assez facilement par bon sens. Enfin, dans l'idée d'utiliser des matériaux de qualité, dans un souci aussi de durabilité, c'est-à-dire que on n'a pas envie, pour cette maison en vieille pierre, de faire de la rénovation qui apportera pas un confort thermique, qui, avec une rénovation un peu à la va-vite, on a envie que tout ça puisse durer et puis qu'on s'y sente bien. Donc c'est l'idée, en fait, et notamment le chaud-chanvre, c'est l'idée de faire une rénovation adaptée, en fait, à la pierre, adaptée à notre climat. Et en fait, on construit une chaufferie, mais parallèlement à ça, on rénove aussi énergétiquement les bâtiments.
La chaufferie est bois, enfin c'est une chaufferie bois, c'est voilà. Ce qu'il faut préciser. Elle sera alimentée comment d'ailleurs?
avec du bois déchiqueté, il y a un fournisseur à Telgruc.
Ben voilà, Telgruc. Et vous avez choisi notamment des artisans de Telgruc. Pourquoi ? Comment vous avez choisi les artisans ?
Et bah en fait, on travaille bah avec des artisans locaux. Nous, on a évidemment un panel d'artisans qu'on connaît, on fait appel à eux. Et puis, là, pour le chantier Chaux-Chanvre, notamment, on souhaitait faire un chantier avec des bénévoles, mais avec un chantier participatif encadré par un professionnel. Et du coup, on a proposé ça à Jean-François Boussard, et puis ça s'est fait comme ça.
Alors Jean-François Boussard, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Combien vous êtes ? En gros, ce que vous faites ? Vous êtes spécialisé un peu peut-être ?
Alors, on est spécialisé dans tout ce qui est pierre, chaux, chanvre, un petit peu de neuf aussi, un peu de béton.
Vous faites surtout de la rénovation ?
Ouais.
Et de bâtiments plutôt traditionnels comme on dit ?
Oui. Ouais, ouais.
Et vous dites combien de salariés ?
Nous sommes trois.
C'est bien, je sais pas, c'est une moyenne ?
On sait très bien.
Ça vous va, en tout cas. Et qu'est-ce que vous pensez alors de ce chantier quand on vous l'a proposé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit déjà sur le bâtiment lui-même ?
Bah, c'est une jolie maison, donc j'aime bien la pierre. Et puis bon, là, c'était en participatif, j'en avais jamais fait. Bon, pourquoi pas ?
Ouais, c'était une question que je voulais vous poser. Ouais, jamais.
Ouais.
Ça vous a pas fait peur ?
Non. Ça se passe très bien.
Ouais, vous vous sentiez l'âme d'un enseignant ?
Ouf, pas plus que ça.
Vous êtes découvert, enseignant. cette maison, vous avez calculé, donc j'imagine, avant de faire votre devis, quelle est la surface à recouvrir de chaux-chanvre déjà ?
Et combien ?
C'est 205 mètres carrés.
205, ouais. Mmh. Enfin, bon, je sais pas. Moi, je suis là en pigiste, quoi. Je suis là la journée, quoi. Donc, plus tôt on finit, mieux c'est.
Ouais. Et donc, chaux-chanvre, c'était la demande, et ça vous paraissait cohérent de recouvrir les murs de chaux-chanvre.
C'est ce qu'il faut faire.
C'est ce qu'il faut faire. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, déjà. Quels sont les avantages ?
Déjà, la chaux, ça respire. Donc, contrairement au ciment qui imperméabilise trop, ça permet à la maison de respirer, quoi. Il y a moins d'humidité. Après, les murs sont un peu plus chauds, quoi. Ça, c'est la même différence entre du carrelage et du parquet, quoi. À la même température, quoi.
Marcher sur du carrelage, c'est pas bien agréable. On préfère marcher sur du parquet, c'est ça ?
Ouais, voilà.
Et la chaux, elle vient d'où ? Enfin, c'est quoi comme matière ? Vous pouvez nous expliquer ?
C'est du calcaire qui a été cuit. Ouais, enfin...
Si, ça nous intéresse.
Ça vous intéresse ?
Ouais. Ouais.
Donc, alors, c'est quoi, là, déjà ? Ils vont extraire en carrière du calcaire, qu'ensuite, qu'ils vont mettre dans un four... chauffé à 900 degrés. Soit dit en passant, c'est quand même 300 degrés de moins que le ciment, donc ça émet un peu moins de CO2.
Voilà, un peu moins d'énergie.
Et à la cuisson, elle va perdre du carbone, quoi. Et du coup, après, ça fait de la chaux vive, qu'après qu'ils éteignent avec de l'eau. Mm-hmm. Et après, nous remélangeons ça avec du sable ou du chanvre, et puis ça recarbonate.
Ah oui, pourquoi est-ce qu'on mélange la chaux avec du chanvre ? Pourquoi cette plante en particulier ?
Celle-là, le chanvre a la particularité, quoi, déjà, avec toute l'humidité qu'on met dans les murs, elle va pas moisir, quoi.
Donc, un bon point.
Un bon point. Puis, ça a la particularité de recracher son eau une fois que l'enduit sèche, quoi. Donc... En fait, c'est pour avoir plein d'espace d'air une fois sec, en fait, dans l'enduit, quoi. Et puis la chaux, elle est là pour stabiliser le tout, quoi.
Et ça fait combien de temps qu'on pratique ce mélange chaux-chanvre, si vous savez
Ça, c'est quelque chose ça fait quoi ? Ça fait 20 ans que ça a commencé à venir en Bretagne, quoi.
Mais c'était pas une pratique traditionnelle, en fait, dans les maisons, je sais pas, de certaines régions, non ?
Certaines régions, enfin, c'est plus du torchis qu'ils faisaient, quoi. Des mélanges de terre, d'argile, et puis de la paille, quoi.
C'est un peu le même intérêt, c'est ça ?
Ouais,
c'est toujours le même principe, quoi. Mélange.
Sauf que là, on a quelque chose, des produits normalisés, donc...
D'accord. Normalisés, ouais, bien sûr, au standard, etc., etc. Et ouais. Justement, comment est-ce que vous vous approvisionnez ? Est-ce que c'est simple, compliqué ?
Non, tout ce qui est chanvre, ça vient de... de Rieck-sur-Belon, la Technichambre.
Ouais, Anaïk, un petit mot peut-être de ça. Ouais. C'est un mécénat, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on a effectivement tout le chanvre qui vient, comme dit Jean-François, de Rieck-sur-Belon, chez une entreprise qui s'appelle Technichambre. Et comme Renard Pince est une association qui est reconnue d'utilité publique, on peut recevoir des dons d'entreprise, on peut recevoir du mécénat. Et donc on a mis en place un mécénat avec Technichambre et on les en remercie. Et du coup, nous, ça nous permet d'avoir la matière première qui est financée de cette façon-là.
Et vous savez où il a poussé leur chanvre? Peut-être pas à Rieck-sur-Belon, Jean-François Boussard, vous savez?
C'est eux qui le cultivent.
Ah ouais, en Bretagne donc?
Oui.
Ah ouais, donc je croyais qu'il n'y avait plus de chanvre en Bretagne, donc c'est bien. Et vous connaissez d'autres approvisionneurs de chanvre ou de locaux?
Il n'y a que.
Ah ouais.
Je ne peux pas aller chercher plus loin, j'ai pris ce qui est de plus près.
Ouais. Et de votre point de vue, il y aurait besoin quand même qu'il y en ait davantage ou pas?
Ils ont l'air d'arriver à fournir, donc. C'est vrai que. On pourrait en faire plus du chanvre. Hein.
Bon, on lance un appel. Et la chaux, vous la trouvez où?
Bah là, c'est eux qui fournissent aussi. Ils fournissent aussi la chaux.
Et qui fait le mélange, c'est eux ou c'est vous?
Ah non, c'est moi.
Ah ouais, comment on fait alors? C'est quoi en gros la proportion? Donnez-nous votre petite recette de cuisine. Chaux-chanvre.
Ouais, pour ma bétonnière, ouais, c'est. Moi, je mets 120 litres de chanvre et puis 70 kilos de chaux. Quoi.
Et le chanvre, il est haché, quoi, c'est ça enfin,
ouais. Ouais. Et c'est la tige qui préfère, quoi. La chaîne vote.
La quoi?
C'est ça, c'est la...
Chaîne vote, la chaîne vote, c'est le nom de la tige de chanvre.
C'est la tige centrale, quoi.
D'accord, donc elle est hachée, mélangée à la chaux, ouais. C'est moitié-moitié à peu près, enfin, les proportions, c'est ça?
Ouais, quasiment, oui.
D'accord, et de l'eau, il faut?
Oui, beaucoup d'eau.
Et après, comment est-ce qu'on procède à l'application? Est-ce qu'il y a des inconvénients, des avantages? Enfin, comment est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien une fois qu'on l'applique sur les murs?
Pour le dégrossir, on étale au gant.
Ah ouais?
On projette au mur. Quoi. Mmh. Et puis, on taloche un peu pour dresser. Et puis... Ouais, voilà.
Voilà, ouais. Enfin, c'est pas si facile que ça, quand même, si. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a jamais fait de chaux-chanvre?
Bon, c'est pas compliqué.
Bon, alors on va demander à Simon, justement. Simon Pétillon, donc vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez voulu participer au chantier?
Oui, bien sûr. Moi, ça fait des années maintenant que je connais, que je fréquente le Run, que ce soit pour les concerts ou filer un coup de main en tant que bénévole sur les événements. Et quand il y a eu ce financement participatif déjà des lieux, ça m'a semblé évident de participer. Et la suite, c'est un peu de mettre la main à la pâte pour venir filer un coup de main et puis aussi apprendre des techniques, apprendre du bâtiment, des différents corps de métier qui se croisent. Et puis c'est toujours agréable de travailler avec d'autres gens. Enfin, il y a une bonne ambiance et ça avance bien, quoi, c'est intéressant.
Et vous-même, vous avez un projet de rénovation pour chez vous? Enfin, ça sera
pas spécialement. Alors, dans mon entourage, je suis toujours amené à aller bricoler à droite à gauche. Dans le futur, oui, potentiellement, ça peut être des techniques qui me seront utiles. Mais c'est aussi avant tout par curiosité, quoi, de découvrir ces techniques-là.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'application chaux-chanvre?
L'application chaux-chanvre, oui. Bah, finalement, c'est vrai que c'est assez simple. Alors après, on parfait la technique en faisant, mais c'est assez primaire, je dirais. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'outils, mis à part les mains principalement, et puis un coup de taloche derrière, c'est... Jusqu'à présent, ça se fait assez bien, quoi. Donc, après, ça prend du temps parce que c'est poignée par poignée. Donc, il y a quand même des kilos à mettre sur le mur. Donc...
Et il n'y a pas d'après à mettre, Jean-François Boussard, on met directement le chaux-chanvre, on ne met pas quelque chose qui permet à la matière d'adhérer
Si on veut jouer au feu et monter des grandes hauteurs, on met une barbotinelle à chaux aérienne pour éviter que ça tombe.
Et il faut faire tout le mur d'un coup, c'est ça?
Bah là, on a commencé un peu partout dans l'étage, au fur et à mesure.
On monte. On peut s'arrêter quand même, c'est pas grave. Au niveau des raccords, ça sera pas...
Là, c'est que le dégrossi.
Ah, voilà, il y a deux parties, c'est ça? Expliquez-nous. Ouais. Ouais.
Après, il y a la couche de finition, après. Par contre, celle-là, c'est tout le panneau qu'il faut faire. Quoi.
Et la couche de finition, c'est un mélange plus fin, c'est quoi?
Ouais, là, on est sur un chanvre plus fin, quoi. Plus chargé en chaux, pour pouvoir le travailler encore plus facilement, quoi. Donc, là, c'est plus compliqué.
Ouais. Là, ça demande une petite technicité, quoi.
Il faut avoir quelques rudiments d'enduit. Comme il y a plein de petits panneaux, ça va permettre.
Ça, aux apprentis de travailler en fait sur une petite surface sans que ce soit trop grave, d'accord, ok. Et vos apprentis, donc ça se passe comment, ouais? Vous en avez combien, là? Vous les avez comptés?
7, 8.
Ouais. Bah, c'est Anaïs qui va nous en parler, elle va nous expliquer. Et ça se passe comment?
Très bien.
Bon. Alors Anaïs, comment ça se gère un chantier participatif?
Alors, là, sur ce chantier-ci, et puis c'est assez nouveau, en fait, de faire à Renard Pin, c'est un chantier qui est encadré par un professionnel.
Parce qu'il y a déjà eu des chantiers pas encadrés, enfin, c'est ça?
Oui, il y a eu pas mal de chantiers depuis des années à Renard Pin, et il y a toujours de quoi faire. Et là, du coup, pour ce chantier chaud chanvre, là, c'est la première session, donc là, on arrive à la fin de la première semaine.
Ça a commencé quand?
Ça a commencé mardi.
Il n'y a pas eu avant?
D'accord. Non, il n'y a pas eu avant. Et il y a encore toute la semaine prochaine. Donc là, on fait une première session de 10 jours. Et sur ces 10 jours, il y a 16 bénévoles. Il y a 9 femmes qui sont là. Donc c'est aussi des chantiers assez féminins. C'est important de le souligner.
Et c'est pas si fréquent.
Ouais, c'est ça. Il y a, dans les gens qui viennent au chantier, il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils vont faire du chaud chanvre chez eux. Des gens, par exemple, qui viennent d'acheter une maison et qui, du coup, ont envie de se former. Il y a des gens qui sont des habitués des chantiers, qui viennent filer un coup de main.
Comme Simon.
Comme Simon, par exemple. Il y a des gens qui découvrent le Renard Pince via ce chantier parce qu'ils ont entendu parler du chantier chaud chanvre et du coup, ils découvrent en même temps le bénévolat Renard Pince. Et du coup, c'est assez chouette pour nous et c'est vraiment aussi enrichissant de voir des nouvelles personnes venir sur les lieux. Du coup, au total, là, j'ai calculé, ça fait 420 heures de travail bénévole les 10 jours.
Combien, est-ce qu'il y en a qui restent vraiment toute la journée pendant toutes les sessions ou est-ce que c'est plutôt par 2-3 heures
Alors pas par 2-3 heures, en général les gens ils viennent au moins pour une journée et en fait c'est plutôt sur 3-4 jours de rang. Mais c'est possible de venir juste sur une demi-journée par exemple, c'est ce qu'on avait dit. Les gens qui veulent vraiment se former évidemment ils viennent sur plusieurs jours parce que comme ça ils voient toutes les étapes du chantier. Et ils vont voir, là ils voient le dégrossi, ils font le dégrossi et ils vont passer aux étapes de la finition. Tandis qu'il y en a d'autres qui viennent juste, y a aussi besoin de porter des seaux, il y a besoin de faire des choses où on a moins besoin de pratiquer. Du coup, il y a un peu de tout.
Et vous Simon, vous consacrez combien d'heures en gros?
J'étais là hier, je suis là aujourd'hui et je serai là demain. Donc ça fait 3 jours dans la semaine.
Et alors c'est pas homologable comme formation évidemment, non c'est...
Non, ça l'est pas, non.
Mais ça donne un bon aperçu de à quoi ça ressemble, quoi, et puis de la technique, et puis des différentes étapes aussi. C'est intéressant de faire plusieurs jours pour ça aussi, je pense, pour voir vraiment le dégrossi, le finissage, et puis voilà.
Et ça vous paraissait indispensable d'avoir un professionnel, enfin, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un professionnel?
C'est vrai qu'on a on a une ligne à suivre un peu plus claire. Quand on n'est pas sûr aussi de ce qu'on fait, on peut avoir un avis pro. Et puis demander conseil à quelqu'un qui est un peu plus légitime. Et c'est intéressant.
Et Jean-François Boussard, si vous deviez comparer en fait, le travail des salariés et le travail de bénévoles, est-ce qu'il y a des différences, enfin, quelles sont les différences éventuelles que vous avez remarquées?
En tant que professionnel, déjà, désolé, gars. On avance plus vite, c'est normal.
Oui, ça, normal.
Voilà. Surtout pour la finition, la clé, ça va être la vitesse, quoi. Ça sèche très vite. Donc, sur un panneau de 10 mètres carrés, il faut qu'en une heure, ça soit plaqué. Et après, on reste le travailler pendant 2 à 3 heures après.
Il faudra rameuter le maximum de bénévoles à ce moment-là, en fait, c'est ça, ça stratégiquement.
Mais là, on voit entre 7 et 9, c'est très bien, quoi.
D'accord.
Après, j'aurais peut-être un peu de mal à gérer s'il y a plus.
Ouais. Très bien. Et vous avez envie, du coup, de recommencer d'autres chantiers participatifs? Ça vous a donné envie, là, de...
Pourquoi pas?
Oui.
Bon. Enfin, si. Si avec les plannings, beaucoup de travail. Enfin, de toute façon, on me préviendra largement avant.
Et oui, parce que là, en fait, Jean-François Boussard, il doit intervenir après sur d'autres chantiers plus tard.
C'est vrai que là, c'est vraiment expérimental. On ne savait pas trop à quelle vitesse on allait aller. Donc là, on va faire le point... cette fin de première semaine de la première session pour voir comment on s'organise pour la suite, parce que là donc on est uniquement au premier étage, il y a tout le rez-de-chaussée, puis il y a le dernier étage à faire également, et on programme de faire une nouvelle session en janvier, a priori pour fin janvier. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, nous on est évidemment preneurs de nouveaux bénévoles, on peut les accueillir, venir, on peut leur montrer le chantier et puis leur expliquer comment ça peut se passer. Donc vraiment les gens sont les bienvenus. Et voilà, on va caler les dates et on va les annoncer pour la fin janvier. A priori, peut-être une petite dizaine de jours à nouveau, une grosse semaine. On va voir comment on organise tout ça.
Bon, bah, le message est lancé. On enverra quelqu'un faire un reportage in situ. Voilà, bah, merci à tous les trois.